journée de campagne. Bonjour, bienvenue en Auvergne. Nous sommes dans la grande région, certes, d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais le département du Cantal axe sa communication sur l'Auvergne. Normal, me direz-vous, car le Cantal partage avec le Puy-de-Dôme les espaces inclus dans le parc régional des volcans d'Auvergne. 400 000 hectares sur une étendue de 120 km du nord au sud, avec des décors qui donnent le vertige pour leur beauté et parfois leur altitude qui dépasse les 1800 mètres. Dans le Cantal, cette vaste étendue naturelle limite la densité de population, qui a même tendance à baisser, ce qui alerte les autorités départementales qui tentent de communiquer pour présenter un autre visage en annonçant le Cantal, la destination tendance. Ça change du Chantal, t'as pas oublié le Cantal, campagne publicitaire, rien sexiste. Certes, il y a les fameux fromages, les belles salaires qui broutent dans les prairies, mais il y a aussi d'autres traditions dont on parle moins. Exemple, les parapluies d'Aurillac, vieille tradition qui dépasse chez Pigagnol les 130 ans d'existence. Mathieu Pigagnol représente la 5e génération de cette entreprise du patrimoine vivant. Il va répondre à nos questions. Et puis le Cantal cherche donc ses candidats à l'installation, ses futurs chefs d'entreprise. Et dans cette perspective, le département organise des sessions d'accueil d'actifs, comme le précisera Marie Millette, seconde invitée.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Mathieu Pigagnol, bonjour.
Bonjour.
À Aurillac, quand on dit Pigagnol, c'est une longue histoire. 134 ans d'une entreprise familiale devenue entreprise du patrimoine vivant qui produit le fameux parapluie. Alors, en quoi ce parapluie d'Aurillac, l'Aurillac entre autres, est-il exemplaire et fameux?
Alors, il est fameux parce qu'il existe depuis le 19e siècle et on continue à fabriquer toujours de la même manière. Aujourd'hui, la maison Pigagnol, on a le parapluie de Berger, qui est l'histoire du parapluie, comment et pourquoi Aurillac est devenue la capitale française du parapluie depuis le 19e siècle. Ce parapluie-là, je le fabrique toujours. Et on a aussi l'innovation avec les parapluies numériques qu'on développe en interne.
Mmh. Mathieu, évidemment, il y a là toujours la concurrence. On imagine que l'entreprise Pigagnol a eu des soucis avec une concurrence d'Europe de l'Est ou d'Asie. La seule possibilité pour conserver son activité, c'est d'entrer plutôt dans une gamme de produits de luxe?
Alors, c'est pas les pays de l'Est, c'est de la concurrence asiatique. Ouais. Nous, on peut même en parler en termes de génération. C'est mon grand-père, Henri Pigagnol, qui a fait sa carrière avec un modèle 100% français ou européen, et a vu arriver un jour à l'usine un monsieur, il s'appelait Mr. Chen, qui lui a dit « Moi, votre parapluie, monsieur, je vous le fais 20 fois moins cher. » Ah. Et là, mon grand-père comprend que c'est vrai. Et il dit « Moi, je suis à la large de retraite et je peux pas continuer. » Donc, il prend sa retraite. Et mon père, Jean Pigagnol, avait 40 ans à cette époque-là, il voulait faire sa carrière dans la maison Pigagnol, et en fait, il a changé le métier d'entreprise. Mon grand-père faisait un parapluie utilitaire, ce marché-là a été conquis par la concurrence asiatique, ouais. Et mon père a changé le métier en faisant un accessoire de mode haut de gamme. Alors, on n'est pas du luxe, mais on est du haut de gamme.
Oui.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça correspond à l'arrivée de ma mère dans l'entreprise. Parce que mon père, mon grand-père, moi, on est des gestionnaires, hein, on a fait des écoles de commerce, mais on n'est pas des créateurs. Et donc, mon père décide d'intégrer ma mère, qui rejoint la société, et qui permet à la société de développer le concept d'accessoires de mode, avec deux collections, printemps-été, automne-hiver. Et c'est ça qui fait que l'entreprise existe toujours aujourd'hui.
Et depuis 1884, date donc de la fondation de la maison Pigagnol, vous avez toujours eu créer des produits 100% français?
Oui, la fabrication à Aurillac n'a jamais été interrompue depuis 1884. Mmh. On a quand même changé de site, puisqu'à l'origine, en 1884, c'était la maison familiale. Et c'est mon grand-père qui est venu dans le site où on est aujourd'hui, 1968. On est dans une zone industrielle avec un bâtiment où, en fait, toute la production est réellement organisée pour faire de l'industriel.
35 personnes employées?
Oui, toujours. En fait, l'effectif de la maison Pigagnol est relativement stable. Il faut bien comprendre que pour faire un produit haut de gamme, il faut un vrai savoir-faire. Et donc, on a des personnes qui sont en CDI chez nous et on a une énorme fidélité. Par exemple, j'ai encore des employés. Enfin, l'année dernière, j'ai mis la retraite. Il y a une personne qui a fait valoir ses droits à la retraite, qui a travaillé avec 4 générations de Pigagnol. C'est exceptionnel. Mmh.
Donc 35 salariés, essentiellement des femmes, coupeuses, piqueuses, assembleuses, pour assurer la fabrication de 50 000 parapluies par an. Ça suffit?
Oui, ça suffit, oui. Avec ce même personnel, mon grand-père fabriquait 250 000 parapluies. Aujourd'hui, on en fait 5 fois moins, mais on passe 5 fois plus de temps pour avoir un produit haut de gamme.
Alors, produit haut de gamme avec des produits locaux ou made in France, ça veut dire la toile, par exemple, est conçue comment et avec à partir de quels matériaux?
Alors effectivement, c'est une volonté forte aujourd'hui de notre part de relocaliser un maximum et à proximité le sourcing. Par exemple, donc Aurillac, capitale française du parapluie, donc autour de nous, il y avait des gens qui fabriquaient les mats de parapluie. Et on retravaille avec des entreprises qui ont oublié leur métier premier qui était de fabriquer des mats de parapluie, mais qui ont toujours le savoir-faire, et on essaye de relocaliser ces savoir-faire. Aujourd'hui, on est capable de refaire une poignée en bois de châtaignier, un mât en érable, et tout ça sur des essences de bois qui sont locales. Mmh. Et pour le tissu, on travaille avec une entreprise des Lyonnais, qui ont ce savoir-faire de tisseur.
Ouais. On gagne en précision et en efficacité avec aujourd'hui les ciseaux électriques, machines laser, imprimantes numériques. Est-ce que malgré tout, la version, l'authenticité du produit, c'est-à-dire sa vertu artisanale, n'est pas dévalorisée par l'usage de tels outils ?
Non, parce qu'on conserve le cœur. C'est-à-dire que le cœur du savoir-faire, il est manuel. Si vous veniez dans la manufacture, vous verriez qu'il y a des tâches qui sont effectivement la découpe laser, parce que la précision, elle est meilleure, elle est du dixième de millimètre. Par contre, par exemple, le piquage, il n'y aura jamais de robotisation. La précision ici, elle est de l'ordre du millimètre. Les ouvrières chez Pigagnol, elles ont une précision de l'ordre du millimètre, mais surtout, c'est leur imprécision. Elles vont faire 8 coutures avec plus d'un millimètre, moins un millimètre, et la sortie sera parfaite. Ça, aujourd'hui, un robot ne serait pas capable de le faire. Et je ne cherche absolument pas à automatiser ces fonctions-là, qui sont le cœur de notre métier. Ça, on ne va pas le changer.
Bon, Mathieu, je vous avoue, je m'y attendais, mais c'est rassurant de l'entendre. Depuis 1884, 134 ans, la maison Pigagnol. Pigagnol.fr pour l'adresse. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Vous connaissez la formule qui a fait son chemin, c'est le cas de le dire. Dans le Cantal, ce sont des paysans boulangers qui se sont emparés du principe pour l'appliquer à leur association des copains bio. Alors, copains, ça s'écrit C2O comme la coopérative qu'ils ont créée en 2011 à Marcolès. Cette ferme à dimension familiale ont rejoint les deux boulangers à l'origine du collectif qui produit désormais des farines biologiques du Cantal. Les farines sont de culture 100% bio, locale, en valorisant des variétés anciennes de blé, de sarrasin, de seigle ou de petit épeautre. Le groupe a fait l'acquisition de deux moulins de type astrier fonctionnant avec des meules de pierre inventées par les frères Astrier à Marcolès, La Feuillade en Vézy. Vous allez trouver à notre page le lien avec les copains bio. Marie Millette, bonjour.
Bonjour Philippe.
Marie, vous êtes chef de service à la direction de l'action territoriale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans le service d'animation des dispositifs d'accueil de nouvelles populations, nouveaux actifs, parce qu'il y a des défis dans des territoires ruraux, défis démographiques, de l'innovation, et puis surtout le maintien des services. Et ça pose un vrai problème. Alors comment faites-vous pour gagner une nouvelle population chez vous dans le Cantal en évitant Chantal et le fromage ?
Effectivement, on a un enjeu assez fort dans le département du Cantal qui est de regagner de la population puisque malheureusement on a subi un assez fort déclin démographique.
Oui.
Mais une bonne nouvelle, c'est que notre solde migratoire est redevenu positif depuis 1999. Donc on veut, nous, absolument agir sur ce solde migratoire pour à la fois faire venir dans notre département des nouveaux actifs et puis retenir aussi nos jeunes ou les faire revenir dans un deuxième temps pour ceux qui ont pu partir faire des études ou travailler ailleurs.
Premier souci, c'est de trouver le bon axe de communication.
Oui, c'est compliqué parce qu'on est, y a une concurrence des territoires qui est assez forte. Et effectivement, on est un petit département, le plus petit département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ouais.
Donc avec des moyens pas très importants à mettre sur de la communication. Et c'est vrai que comment se faire repérer au niveau national comme un territoire d'accueil et susceptible d'offrir un cadre de vie, un cadre de travail à des populations qui sont en demande de changer de vie.
Est-ce que le tourisme est une première porte d'ouverture à la future installation d'actifs chez vous ?
Oui, c'est une porte très importante parce qu'on s'aperçoit que les gens, en particulier qui sont venus en vacances sur un territoire, s'y implantent de façon plus naturelle.
Mmh.
C'est effectivement une population qu'on essaye de sensibiliser à l'installation sur notre territoire.
Il y a deux conditions d'emblée dans tous les départements ruraux, c'est quel type de service Internet vous avez ? Est-ce que vous avez eu du haut débit ou vous êtes encore précaire et quasiment en zone blanche ? Et deuxièmement, quels sont les services, à commencer par la santé et suivi de l'éducation ?
Bon, concernant les technologies de l'information et de la communication, c'est le déploiement de la fibre qu'on assume avec la région. Et on souhaite que ce territoire soit irrigué le plus totalement possible.
Quels sont les emplois potentiels chez vous ?
On a beaucoup d'emplois de cadres qui sont non pourvus. Donc on essaye de faire des opérations justement de visibilité sur ces emplois à pourvoir. On a participé l'année dernière à une opération sur un salon virtuel de l'emploi avec Pôle emploi et la Chambre de commerce. C'est une opération qui sera renouvelée cette année. Voilà, pour essayer d'attirer des cadres ou des agents de maîtrise, voilà, parce qu'il y a des entreprises qui ont du mal localement
à recruter.
Voilà, à recruter. Mmh. On cherche aussi beaucoup de porteurs de projets qui sont susceptibles de reprendre des entreprises, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite en grande proportion les années prochaines. Et du coup, on cherche aussi pas mal de repreneurs d'activités.
Vous organisez des sessions d'accueil d'actifs, 24e, là, ces jours-ci, 17 et 19 octobre. On peut venir pendant 3 jours, on va rencontrer des chefs d'entreprise, on va rencontrer des élus, on voit le terrain, on découvre le potentiel du département, les possibilités d'installation. Et depuis que vous organisez ces sessions, les 23 sessions organisées depuis 2003, vous avez accueilli 550 porteurs de projets et 25% d'entre eux ont concrétisé leur installation. C'est ça ?
Exactement. Donc c'est un séminaire qui s'adresse à des porteurs de projets extérieurs au département, tout secteur d'activité confondu, c'est-à-dire qu'on accueille aussi bien des gens qui veulent entreprendre dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'artisanat, dans le tourisme, voire des télétravailleurs. Bon, le calibre de la session, c'est à peu près une vingtaine de projets, ça fait une quarantaine de personnes à qui on fait rencontrer des élus, des chefs d'entreprise. On leur fait visiter des entreprises à reprendre et beaucoup de gens qui travaillent en accompagnement de la création ou de la reprise d'entreprise.
Ça s'appelle donc session d'accueil d'actifs. Il y a un site qui vous permet de vous guider dans les démarches et de connaître le principe de ces sessions avec les potentiels d'installation. C'est cantalauvergne.com et vous aurez le lien en même temps donc avec la dernière session du 17 au 19 octobre. Merci Marie Millette.
Merci.
Nous recueillons toujours les bonnes nouvelles en provenance pour le mois de novembre de l'Allier, de la Saône-et-Loire, du Jura et d'Ille-et-Vilaine. Merci à Rouget-Perse, le Rouget-Perse très exactement, Nicolas Stoufflet.